Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Kiddushin, page 57, Daf Nun Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Qui est en trop ? Agma répond, et l'odarish. Ce Tana n'interprète pas le terme de et, c'est pour cela qu'il apprend de Balachornaki que la peau de ce taureau est interdite.
Nous sommes Kiddushin, Daf Nun Zayin Amud Alef, en haut de la page. Nous avons vu jusqu'à présent qu'il était interdit de consommer et de tirer profit du taureau destiné à être lapidé parce qu'il a encore né un homme. Et cela, même s'il a été égorgé, après que le verdict de la lapidation a été rendu. Nous l'avons appris du pasouk Velo Yeachel et Bessero, sa chair ne pourra pas être consommée. De là, nous avons appris, comme l'Agmar l'a expliqué, que quand le pasouk ne précise pas la nature de l'interdiction, il sera interdit soit de consommer l'objet en question, soit d'en tirer profit. Nous avons vu une discussion dans la Gemara, à savoir d'où est-ce que nous savons que la peau de ce taureau sera aussi interdite à en tirer profit. Selon un des avis, nous l'avons appris de Ubal Ashornaki, quand le pasouk dit le propriétaire du taureau sera quitte, de là nous apprenons qu'il ne pourra tirer aucun profit de ce taureau, même pas de sa peau. Selon le deuxième avis, nous l'apprenons du terme et, qui est superflu. Nous apprenons de là que ce qui est secondaire à la chair, donc la peau de ce taureau, sera aussi interdite à en tirer profit. La Gemara a dit là-dessus que le premier avis qui déduisait des mots ou bala shornaki que la peau du taureau était interdite à en tirer profit, c'est parce qu'il n'interprétait pas le terme de et. La Gemara enchaîne là-dessus que Détania, Shimon Hamsoni, Vemrela, Nechemia Hamsoni, Hayadoresh Kol Itin Shebatora interprétait tous les termes de et employés par la Torah. Il trouvait quelque chose à en déduire. Kivan Sheigia, le et Hashem Elokech Atira, quand il est arrivé au pasouk dans Tvarim Vav, qui dit tu craindras Akadosh Baruch Hu, le terme de et est superflu, Piresh, il a décidé d'arrêter son interprétation des termes de et. Et cela, parce qu'il ne se sentait pas capable de trouver quelque chose qui puisse ressembler à la crainte d'Akadosh Baruch Hu et qui puisse être inclus par ce terme de et. Amrou lo Talmidav, ses élèves lui ont dit Rebi kolitin shedarashta matealem, que fera-t-on des interprétations que tu as faites dans toute la Torah des termes de et? Amar lahem, Shimon Hamsoni ou Nechemia Hamsoni leur a répondu Keshem shekibalti schar aladrisha, de la même manière que j'ai reçu une récompense pour le fait d'avoir interprété les termes de et écrits dans la Torah, car kibalti ala prisha, je recevrai aussi, ou j'ai reçu aussi, une récompense pour le fait que j'ai délaissé mon habitude. Et j'ai arrêté donc d'interpréter les termes de et. Ad sheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce que Rabbi Akiva est venu, Velimed, il a enseigné, il a trouvé quelque chose à inclure et à déduire de ce terme de et. Et Hashem Elokech Atira, quand le pasouk dit tu craindras Kodesh Baruch Hu, le terme de et vient les rabot talmidei chachamim, vient inclure les talmidei chachamim qu'il faudra craindre aussi, si l'on peut dire au même titre qu'Kodesh Baruch Hu. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Be'egla Arufa, celui qui emploie comme objet de Kiddushin la génisse décapitée. C'est la génisse qui devait être offerte par la ville la plus proche d'un cadavre qu'on aurait découvert dans la nature sans connaître son agresseur. Cette ville devait offrir une génisse qui sera décapité par un coup de hache sur sa nuque. On n'a le droit ni de la consommer, ni d'en tirer profit. La Gemara demande, Menalan, d'où sait-on qu'on n'a même pas le droit d'en tirer profit? La Gemara répond, Amre de Berami Anai. Les sages du Betamidrash de Rabbi Anai disaient, Kapara Ktivba Ke Kodashim. Dans l'un des psukim concernant cette génisse décapitée, le pasouk dit, Kaperna, pardonne au Klal Israël, etc. Nous voyons que par l'intermédiaire de l'offrande de cette génisse, le pardon sera obtenu au même titre que l'offrande d'un korban. De là, nous pourrons déduire que de la même manière, on n'a pas le droit de tirer profit d'un korban, on n'aura pas le droit de tirer profit de cette génisse décapitée. Cependant, comme le précise le Maharshal, puisque le pasouk n'emploie pas le terme de kodesh, comme pour n'importe quel objet de hekdesh, nous apprendrons de là que cette interdiction de cette génisse décapitée restera même si on veut transférer son interdiction sur de l'argent. Celle-ci restera toujours interdite. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Tipurei Metzora, celui qui emploie comme objet de Kiddushin les oiseaux offerts par le lépreux lors de sa guérison. En effet, lorsque celui-ci était guéri, il devait faire amener deux oiseaux, une branche de cèdre, une branche de hésov et du fil rouge. Le Kohen égorgeait l'un de ces oiseaux dans un verre en terre cuite contenant de l'eau de source. Il prenait le deuxième oiseau en même temps que la branche de cèdre, la branche de hésov et le fil rouge et le trempait ceci dans le verre contenant l'eau et le sang et aspergeait en direction de ce lépreux. En tout cas, de la Mishnah, nous apprenons qu'il est interdit de consommer et de tirer profit de ces oiseaux. L'Agmara demande, Menalan, d'où le sait-on? L'Agmara répond, de Tanya Debe Rabbi Ishmael. Il a été enseigné une braïta dans le Bet Hamidrash de Rabbi Ishmael. Ne'emar marchir ou mechaper bifnim. La Torah nous parle d'un korban offert qui permet ou qui lève une interdiction. Il s'agit du hacham offert par le lépreux qui le permettra de consommer les korbanot. Et on parle aussi d'un korban offert pour obtenir le pardon. Il s'agit d'un simple korban khatat offert par celui qui a commis une faute. Ces deux sont tous les deux offerts dans le Bet Hamikdash et la Torah ne fait aucune différence entre les deux. Ve'ne'emar marchir u'mechaper bachutz. Et nous parlons aussi dans la Torah d'une certaine offrande qui levera une interdiction. Il s'agit des oiseaux offerts par le Metzora qui permettront aux lépreux de pénétrer dans la ville, dans le campement appelé Machane Israël. Et il y a aussi une offrande qui permet d'obtenir le pardon. Il s'agit de la génisse décapitée, à l'intermédiaire de laquelle le pardon sera obtenu sur le meurtre qui a eu lieu. Ces deux offrandes ont lieu à l'extérieur du Beit HaMikdash. Alors nous ferons la comparaison suivante et nous dirons « Ma marchir ou mechaper ha'amur bifnim » de la même manière que concernant l'offrande qui lève une interdiction et l'offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu, qui sont offerts à l'intérieur du Beit HaMikdash, « Asabo marchir ki mechaper » La Torah a comparé l'offrande qui lève l'interdiction à l'offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu. La Torah ne fait pas de différence en effet entre les deux. Af marchir umchaper amur bachut, nous dirons la même chose concernant l'offrande qui lève une interdiction et concernant l'offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu, qui ont lieu à l'extérieur du Beit HaMikdash. Nous dirons que asabo marchir kemechaper, la Torah compare l'offrande qui lève une interdiction à l'offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu. De la même manière que pour l'offrande qui obtient le pardon, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Concernant l'offrande qui lève une interdiction, on n'aura aussi pas le droit d'en tirer profit. C'est de là que nous apprenons donc que de la même manière qu'on n'a pas le droit de tirer profit de la génisse décapitée, on n'aura pas le droit de tirer profit non plus des oiseaux offerts par le lépreux. Itma, il a été enseigné une discussion. Tzipore Metzora, Mehematai Asurim. À partir de quel moment les oiseaux offerts par le lépreux sont interdits? Rabbi Yochanan Amar, Mishad Shrita. C'est à partir de l'égorgement de l'un de ces oiseaux que celui-ci sera interdit. D'ailleurs, selon Rabbi Yochanan, le deuxième oiseau qui n'est pas égorgé ne sera jamais interdit. Selon Rabbi Yochanan, donc, la Mishnah qui parle d'oiseau du lépreux, en fait, elle parle de celui qui sera égorgé, et cela après qu'il a été égorgé. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit, Mishat Lekicha, à partir du moment où ces oiseaux ont été achetés. Les deux seront interdits jusqu'au moment où le deuxième oiseau sera renvoyé, après que le Kohen a fait l'aspersion en direction du lépreux. À partir de ce moment, le deuxième oiseau sera permis, comme nous le verrons par la suite. Alors, la Gemara précise, Rabbi Yochanan Amar Mishat Shrita, Rabbi Yochanan dit que c'est à partir de l'égorgement de l'un de ces oiseaux que celui-ci sera interdit. C'est parce que Shrita ou Dasrala, c'est l'égorgement de l'oiseau qui cause l'interdiction, parce qu'en fait, le second sera permis par la suite. C'est pour cela donc que selon l'opinion de Rabbi Yochanan, le deuxième qui sera renvoyé par la suite ne sera jamais interdit. Resh Lakish Amar Mishat Lekicha, Resh Lakish quant à lui dit que c'est à partir du moment où ces oiseaux ont été achetés que ceux-ci deviennent interdits. C'est parce que Megla Arufa Nafka, nous l'apprenons et nous le comparons à la génisse décapitée. Ma Egla Arufa Mechaim, de la même manière que nous savons, comme nous le verrons par la suite, que la génisse décapitée est interdite de son vivant. Af Tzipore Metzora Mechaim, nous dirons aussi la même chose concernant les oiseaux offerts par le lépreux, qu'ils seront interdits de leur vivant. Cependant, comme nous le verrons par la suite, l'oiseau resté vivant sera permis dès que celui-ci sera relâché. La Gemara demande, « Ve'egla gufa gufa me'ematai » à partir de quel moment la génisse décapitée devient interdite? La Gemara répond, « Amara bianai, gevul shamati ba ve'shachachti » J'ai entendu la limite et je l'ai oublié. « Venasbin chavraya lomar » et mes collègues ont l'habitude de dire, « Yeridata lenachaletan hi osrata » C'est quand elle descend, quand on la fait descendre dans la vallée déserte, c'est l'endroit où celle-ci sera décapitée, que celle-ci est interdite. La Gemara demande si c'est ainsi, Ima egla rufa mishat lekichalo mitzera, si nous voyons que la génisse décapitée n'est pas interdite à partir du moment où celle-ci est achetée, aftipore metzora nami mishat lekichalo mitzera. On n'a qu'à dire aussi la même chose concernant l'oiseau du lépreux, que celui-ci ne sera pas interdit à partir du moment où ceux-ci sont achetés. La Gemara répond, Haki ashta, voyons voir. Hatamit legvul acharina. Concernant la génisse décapitée, il y a une autre limite, c'est-à-dire le moment où elle pénétrera dans la vallée déserte. Hachamit legvul acharina. Mais concernant l'oiseau du lépreux, y a-t-il une autre limite ou un autre moment où ceci puisse devenir interdit? C'est pour cela donc que nous dirons qu'à partir du moment où ceux-ci seront pris ou achetés, ils deviendront interdits. Etive Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Rabbi Yochanan a objecté à Resh Lakish à partir d'une braïta qui interprète le pasouk dans Dvarim Yudalet. Le pasouk dit « Kol tzipor tehora tochelu »« Tout oiseau pur, vous consommerez ». Le terme de « kol » est superflu. « Le rabot et ameshulachat » le vient inclure l'oiseau du lépreux après son relâchement. Le pasouk continue et dit « Veze asher lo tochlu mehem » et voici ce que vous ne consommerez pas des oiseaux. Le terme de « asher » est superflu. Cela vient inclure le rabot et ashruta. Cela vient inclure aussi l'oiseau du lépreux qui a été égorgé. Celui-ci reste interdit. Alors Rabbi Yochanan demande à Resh Lakish, « V'isal kadatach mechayim asura » Si tu penses que les oiseaux du lépreux sont interdits de leur vivant, « L'achar shrita mivaya » A-t-on besoin d'un pasouk pour nous dire qu'après l'égorgement de l'oiseau, celui-ci reste interdit? Pourquoi a-t-on donc besoin d'un pasouk pour inclure l'interdiction de l'oiseau du lépreux après son égorgement? On a répond, « Mahu de tema midedave akodashim » On aurait pu dire et comparer l'oiseau du lépreux aux korbanot, des mechaïm assirés, qui sont interdits de leur vivant, et l'égorgement vient justement les permettre. Kamash malan, c'est pour cela le pasouk vient nous faire entendre et nous préciser que même après l'égorgement de l'oiseau du lépreux, celui-ci reste interdit. Et tivé, Rabbi Yochanan a objecté à Resh Lakish à partir d'une Mishnah dans le Gaïm Perek Yudalet. La Mishnah dit, Shachata venimtset trefa. S'il a égorgé l'oiseau de l'offrande du lépreux, et il s'est avéré que cet oiseau était atteint d'une blessure ou d'une maladie qui le rend mortel. Cet oiseau est interdit à la consommation, qui est appelé trefa. Celui-ci ne peut pas être utilisé pour l'offrande du lépreux, parce que le pasouk précise qu'il doit amener des oiseaux chayot, vivantes, qui peuvent donc rester vivantes. C'est pour cela, Yikar Zug Lashnia, il prendra un deuxième oiseau pour l'associer à celui qui est resté vivant. Il n'aura pas besoin d'en prendre de nouveau. Va Rishona Muteret Banaha et le premier oiseau est permis d'en profiter. Alors la Gemara comprend qu'il s'agit ici d'un cas, comme le précise le Rachash, qu'on a découvert après l'égorgement de cet oiseau que celui-ci était atteint d'une blessure, par exemple, si l'œsophage était troué. On ne peut pas définir si ce trou est arrivé après que l'oiseau a été acheté ou avant. Parce que s'il s'agissait d'un cas où cette blessure était apparente, par exemple, si les pieds de cet oiseau ont été coupés de manière à rendre cette blessure mortelle, on n'aurait pas pu dire qu'on a découvert ou qu'il s'est avéré que cet oiseau était trefa. En effet, on le savait déjà avant. On ne peut pas dire non plus qu'il s'agit d'un cas où on a découvert que la membrane sur le cerveau était trouée, parce qu'en général, on n'a pas besoin de vérifier ce genre de blessure. Si on l'a découvert, c'est apparemment qu'on pouvait le voir déjà avant. On ne pourra donc pas dire qu'il s'est avéré que cet oiseau était trefa. Alors si cette blessure a été découverte après la shrita, de manière à ce qu'on ne puisse pas définir si cette blessure est arrivée avant ou après l'achat de cet oiseau, la question se pose, vis al-kadatach mechaim asura, si tu penses que ces oiseaux sont interdits de leur vivant, harishona amay muteret bana, pourquoi est-ce qu'on a le droit de tirer profit de la première quand il s'est avéré que celle-ci était trefa? Puisque finalement il se peut qu'au moment où cet oiseau a été acheté, celui-ci était apte à être sacrifié. Cette blessure n'est arrivée qu'après. Amarle, Resh Lakish lui a répondu, Hacha bemaeskinan, ici, de quel cas s'agit-il, que Gonsh nimtset trefa bebne meeha. Il s'agit d'un cas où on a découvert cette blessure, donc cet oiseau était trefa, parce qu'elle avait un trou dans les intestins. Il s'agit ici d'un cas, comme le précise le Tosfotrid, où cet oiseau a été sacrifié dans les 3 jours qui ont suivi son achat, et on a découvert ce trou dans les intestins, de manière à ce que celui-ci avait formé une croûte. Nous sommes persuadés que ce trou est donc arrivé avant l'achat de cet oiseau. Celui-ci n'était donc jamais apte à être sacrifié pour le Metzora. Par conséquent, de l'Ochalala Gdushakta Klal, par conséquent donc, la sainteté du sacrifice n'a jamais pris effet sur cet oiseau, et on aura donc le droit d'en tirer profit. Etivé, Rabbi Yochanan a opposé à Resh Lakish une braïta qui dit Shachata Shelo Be'ezov. Si on a égorgé cet oiseau sans qu'on ait préparé au préalable une branche de Ezov, Veshelo Be'etzerez, ou bien sans qu'on ait préparé au préalable un morceau de bois de cèdre, Veshelo Be'shinitolat, ou bien sans qu'on ait préparé au préalable du fil rouge, la Shrita donc n'est pas valable. Rabbi Yaakov Omer, Ho'il Ve'uktsa le Mitzvata. Puisque cet oiseau a été destiné à la mitzvah du sacrifice pour le lépreux, Asura, cet oiseau sera interdit, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Et cela, même si au moment de la Shrita, celle-ci n'était pas valable. Rabbi Shimon Omer, Ho'il Venishrata Shelok Mitzvata, puisque cet oiseau n'a pas été égorgé conformément aux lois concernant ce sacrifice, Muteret, on aura le droit d'en tirer profit. Adkan l'opligé, jusque-là nous avons vu la discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yaakov, et la Mar Savar Shrita Shenaruya Shma Shrita, que Rabbi Yaakov dit que le sacrifice qui n'est pas valable est quand même considéré comme un sacrifice, et c'est pour cela que cet oiseau est interdit, ou Mar Savar Shrita Shenaruya Lo Shma Shrita, alors que Rabbi Shimon pense que le sacrifice qui n'est pas valable est quand même considéré comme un sacrifice. C'est pour cela que cet oiseau sera permis. De Kule Alma Miha, par contre, nous sommes persuadés que tous les deux pensent, soit Rabbi Yaakov, soit Rabbi Shimon, Mechaim Lomitsera, que cet oiseau n'est pas interdit de son vivant. Parce que si tel était le cas, même si le sacrifice n'était pas valable, il n'y aurait pas de raison de le permettre. D'ailleurs, comme le précise le Shita chez l'Onodalmi, il n'y a pas lieu de dire que c'est justement la discussion entre Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon, à savoir si ces oiseaux sont interdits de leur vivant ou non, parce que sinon, la Breta aurait dû s'exprimer différemment. Aurait dû simplement dire que cette discussion entre Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon est si ces oiseaux sont interdits de leur vivant ou non. Elle n'aurait pas dû s'exprimer de manière détournée. Finalement donc, tous les deux pensent que ces oiseaux ne sont pas interdits de leur vivant. Lakma répond, Tanaïhi, effectivement, il y a dessus une discussion entre les Tanaïm. Rabbi Shimon et Rabbi Yaakov effectivement pensent que ces oiseaux ne sont pas interdits de leur vivant. Cependant, de Tania de Berabbi Ishmael, il a été enseigné dans une Breta, dans le Bétamidrash de Rabbi Ishmael, Neymar Marchir Umchaper Bifnim. La Torah nous parle d'une offrande qui lève une interdiction. Il s'agit du Korban Hacham offert par le lépreux qui lui permettra de consommer les Korbanot. Et la Torah aussi nous parle d'offrandes de Korbanot par l'intermédiaire desquelles le pardon est obtenu. Il s'agit du Korban Hacham ou du Korban Khatat offert par une personne qui a commis un péché. Ces deux offrandes qui se passent dans le Bétamidrash. Veneemar Marchir Umchaper Bachutz, et la Torah nous parle aussi d'une offrande par l'intermédiaire de laquelle une interdiction est levée. Il s'agit des oiseaux offerts par le lépreux qui lui permettront de pénétrer dans le campement de Israël, donc dans la ville, et aussi d'une offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon sera obtenu. Il s'agit de la génisse décapitée, par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu sur le meurtre qui a eu lieu, et cela donc à l'extérieur du Bétamigdash. Nous comparerons donc les deux types d'offrandes. Ma marchir umchaper ha'amur bifnim, de la même manière que concernant l'offrande qui lève l'interdiction et l'offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu, dont la Torah parle à l'intérieur du Beit HaMikdash, asabo marchir kimchaper, la Torah ne fait pas de différence et compare donc l'offrande qui lève l'interdiction et l'offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu. Af marchir umchaper ha'amur bachutz. Alors nous dirons la même chose concernant l'offrande qui lève l'interdiction et l'offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu, et cela à l'extérieur du Beit HaMikdash. Là aussi nous dirons, à sabom archir kim chaper, la Torah compare l'offrande qui lève l'interdiction à l'offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu. De la même manière que concernant l'offrande par l'intermédiaire de laquelle le pardon est obtenu, donc la génisse décapitée, celle-ci est interdite de son vivant, comme nous l'avons vu. Alors aussi, concernant l'offrande qui lève l'interdiction, donc les oiseaux du Metzora, ceux-ci seront interdits de leur vivant. Goufa. La Gemara reprend la Braïta qui a été enseignée plus haut, qui interprète le pasouk dans Dvarim Yuddalet. Le pasouk dit « Kol tzipor tehora tochelu, tout oiseau pur, vous consommerez ». Le terme de « kol »,« tout », est en plus. Les rabot et tamushulachat, cela viendra inclure l'oiseau qui a été relâché. Veze asher lotochlu mehem, et voici les oiseaux que vous ne consommerez pas. Le terme de asher est en plus. Les rabot et ashruta, cela viendra inclure l'oiseau du Metzora qui a été sacrifié. Celui-ci reste donc interdit. La Gemara demande, ve puchana, on n'a qu'à dire le contraire, que l'oiseau qu'on a sacrifié devrait être permis, et celui qui a été relâché serait interdit. La Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo matinu ba'alei chayim she'asurim, nous ne trouvons pas d'animal vivant qui est interdit. C'est pour cela donc que si la Torah permet quelque chose, c'est certainement l'oiseau relâché. La Gemara demande, Matkifla, Rab Shmuel Bar Rabbi Yitzhak, Rab Shmuel Bar Rabbi Yitzhak a objecté là-dessus, Velo, n'a-t-on pas trouvé d'animal interdit? Haré, voici, nous tournons la page à Daf Nun Zayin Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Oh, n'a-t-on pas trouvé d'animal interdit? Haré, voici, nous tournons la page à Daf Nun Zayin Amud Bet. Mukhtse, l'animal destiné à être offert en tant que sacrifice pour une idole. Venevad, et l'animal qui a été servi comme idole. De Baalei Chaim Ninhu, il s'agit d'animaux vivants. Veasire, et ils sont interdits. Et cela, comme la Gemara le dit dans Tmura Dav Kafret, qui interprète les psukim concernant l'offrande du korbanola. Le pasuk dit Min habema, vous offrirez de la genre animal. Cela vient exclure qui aurait subi une relation humaine. Celle-ci ne pourra pas être offerte en tant que korban. Quand le pasuk continue Min habakar, des bovins, le terme de min vient exclure l'animal qui aurait servi d'idole. Quand le pasuk continue dit « minatson » du menu bétail, le terme de « min » est supplémentaire, vient exclure l'animal qui a été désigné comme sacrifice pour une idole. Ces animaux donc ne peuvent pas être offerts en tant que corban. Nous voyons donc bien qu'il y a des animaux qui sont interdits de leur vivant. L'Agma répond « qui a ciré les gavois ?» Nous voyons effectivement des animaux qui sont interdits pour être offerts en tant que sacrifice, les hédiot mishra charé, mais ils seront permis à la consommation des êtres humains. Matkifla, Rabbi Irmia a objecté là-dessus. Haré rovea venirba beedim, voici l'animal qui aurait subi une relation humaine, et cela en présence de témoins. Cet animal doit être lapidé. Cet animal sera donc interdit à la consommation et d'en tirer profit, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédemment. Et cela, même si cet animal aurait été égorgé par la suite, après que le verdict de la lapidation aura été rendu. Finalement donc, de Baalei Chaim Ninhu, il s'agit d'animaux vivants, ve'asiré, et ils sont interdits de leur vivant. Et là, c'est beau cela, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Lo Matzinu Rov Baalei Chaim She'asurim. On ne trouve pas chez la majorité des animaux vivants qu'ils soient interdits de leur vivant. Forcément donc, si la Torah permet quelque chose, forcément, nous dirons que la Torah a voulu permettre l'oiseau qui a été relâché de son vivant, et non pas de permettre l'oiseau qui a été sacrifié. De Berabi Ishmael Tana, il a été enseigné une braïta dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, d'Amakra, parce que le pasouk dit, concernant justement le lépreux, après que l'oiseau a été renvoyé, le pasouk dit, Veshilach El Mechutz Lahir Al Pene Asade, l'oiseau sera renvoyé en dehors de la ville, sur la surface du champ. Cette partie du pasouk est supplémentaire, puisque le pasouk dit que cet oiseau sera relâché en dehors de la ville. On lui dira donc « Kesade ». Le pasouk a voulu comparer cet oiseau au champ « Masade Muteret » de la même manière que le champ est permis, c'est-à-dire on a le droit d'en tirer profit. « Afhainami Muteret » nous dirons aussi que cet oiseau qui aura été relâché sera permis. La Gemara demande « Haïsade l'Achiudata » Est-ce que ce terme de Sadeh, c'est cela que cela vient nous apprendre? Haomi Vaele, on a besoin de ce terme pour nous enseigner ce qui a été enseigné dans la Braïta, l'Egdetania, comme nous l'avons vu dans une Braïta. Cette Braïta interprète justement ce pasouk, qui parle de la cérémonie des oiseaux lors du rétablissement d'une maison atteinte de la lèpre. Le pasouk dit donc, comme nous l'avons mentionné dans Vaikra Yudalet, Veshilach et Atzipor Achaya, El Mechutz Lair, Al Pene Asadeh. Il relâchera l'oiseau vivant en dehors de la ville, sur la surface du champ. Alors le terme de Sadeh vient nous enseigner, Shelo Yamot Beyafo, Veizreken Alayam. Il ne devra pas se tenir dans la ville de Yafo et relâcher cet oiseau en direction de la mer. Parce que comme nous le savons, la ville de Yafo se trouve au bord de la mer. Ou bien, Begevet. Il ne devra pas se tenir dans la ville de Gevet et relâcher cet oiseau en direction du désert, parce que cette ville de Gevet se trouve au bord du désert. Et ne se tiendra pas en dehors de la ville et relâchera cet oiseau en direction de la ville. Et là, seulement la manière dont il devra se conduire, il devra se tenir dans la ville et relâcher cet oiseau en dehors de la muraille. Nous apprenons cela du fait que le pasouk précise précédemment que cet oiseau sera envoyé en direction de l'extérieur de la ville. Forcément donc, nous comprenons que cette personne se trouve dans la ville. Comme le précise le Chidushim Kadmonim de Rabbi Eliezer Ashkenazi, puisque nous comparons la lèpre humaine à la lèpre des maisons, on nous dira aussi la même chose concernant la cérémonie du lépreux à sa guérison. Donc le Kohen, après la cérémonie de ces oiseaux, devra rentrer avec cet oiseau dans la ville et le renvoyer en direction de l'extérieur de la ville. En tout cas, nous voyons que cette braïta interprète le terme de Sadeh. Finalement, on ne pourra pas déduire aussi que cet oiseau sera permis comme le champ. L'agma répond, Veidar est l'auteur de cette braïta dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, interprète le pasouk de la manière suivante. Parce que, Imken Nirtov Kra Sadeh, c'était simplement pour nous enseigner ce que la braïta nous a déduit du pasouk. Le pasouk aurait simplement pu suffire et dire Sadeh, c'est-à-dire Veshilach al pene Sadeh, Mai Hasadeh. Pourquoi le pasouk s'exprime en disant Hasadeh, donc pourquoi ce hé supplémentaire Shma Minatarte? On peut donc déduire deux choses de ce pasouk. Premièrement, que cet oiseau devra être renvoyé, relâché en direction des champs. Et deuxièmement, que cet oiseau sera permis comme les champs. Rava Amar, Rava dit, nous n'avons même pas besoin d'un pasouk pour nous permettre cet oiseau qui a été relâché. En fait, ce que la Braïta plus haut nous a enseigné, que nous l'apprenons d'un pasouk, c'était simplement un appui. Cela parce que Lo Amra Torah Shelach Letakala. Il est évident que la Torah n'a pas dit de relâcher un oiseau pour que cela cause des déboires. C'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait le problème que la personne qui retrouve cet oiseau transgresse une interdiction. C'est pour cela donc, il est évident que cet oiseau est permis. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Besser Nazir, celui qui emploie comme objet de Kiddushin les cheveux du Nazir, les Kiddushin ne seront pas valables. Et cela parce que ces cheveux du Nazir sont interdits à en tirer profit. La Gemara demande Menalan, d'où le sait-on? La Gemara répond Damakra, parce que le Pasouk dit concernant le Nazir dans Babit Barvav, Kadosh Iye, Gadel Pera Searosho, il sera saint, il se laissera pousser les cheveux. Nous apprenons de là, Gidulo Iye Kadosh, ses cheveux qui poussent seront saints. On n'aura donc pas le droit d'en tirer profit. La Gemara demande, Ima Kodesh Tofes et Dama Viotzele Chulin. Si les cheveux du Nazir sont comparés à quelque chose qui a été sanctifié, on n'a qu'à dire de la même manière que ce qui a été rendu Ekdesh. La Kdusha de cet objet est transférée sur sa contre-valeur et cet objet devient Chulin. On a le droit d'en tirer profit. Afser Nazir Tofes et Dama Viotzele Chulin. On n'a qu'à dire donc la même chose concernant les cheveux du Nazir, que sa Kdusha puisse être transférée sur de l'argent et ses cheveux seront permis. On aura le droit d'en tirer profit. L'Agma répond, Mikarinan Kodesh, est-ce que dans le pasouk nous lisons Kodesh? Et de là nous comprendrons donc que les cheveux du Nazir sont comparés à ce qui est rendu Ekdesh, Kadosh Karinan, on le lit saint. C'est une chose donc dont la Kdusha ne peut pas être transférée sur de l'argent. D'ailleurs, comme le Rashi le précise, ce terme de Kadosh est l'une des 13 fois dans la Torah où ce mot a été écrit sans le Vav. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Bepeter Chamor. Celui qui utilise comme objet de Kiddushin le premier-né de l'âne, celui-ci doit être acheté avec un agneau. s'il n'a pas été racheté, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Par conséquent, donc, les kiddushin ne seront pas valables. La Gemara demande, Nema matnitin de l'oke Rabbi Shimon, pourra-t-on dire que notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Shimon, de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une breita. Peter Hamor Asurbana, le premier-né de l'âne, avant qu'il ait été racheté avec l'agneau, celui-ci est interdit d'en tirer profit, dit vrai Rabbi Yehuda. De Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon permet qu'on en tire profit. Finalement, donc, selon l'avis de Rabbi Shimon, celui qui emploie comme objet de Kiddushin le premier-né de l'âne, les Kiddushin seraient valables. L'agma répond, Amar Rav Nachman, Amar Rav Avaravua, Leachar Arifa, ici, il s'agit d'un cas où cette personne n'a pas racheté le premier-né de l'âne avec un agneau, et il a été donc obligé de le décapiter avec un coup de hache sur la nuque. Bedivra Kol, et donc la Mishnah va selon tout le monde, parce que dans ce cas, même Rabbi Shimon sera d'accord qu'après que cet âne a été décapité, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Et cela, parce qu'on apprend à partir d'une Xera Shava, à partir du terme de Arifa, c'est-à-dire décapité, et on le compare donc à la génisse décapitée. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Basar Bechalav. Celui qui emploie comme objet de Kiddushin de la viande qui aurait cuit avec du lait, les Kiddushin ne seront pas valables, et cela parce qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. À la Gemara demande Menalan, d'où le sait-on? La Gemara répond de Tanya de Rabbi Ishmael, parce qu'il a été enseigné une Breita dans le Beit Hamidrash de Rabbi Ishmael. Alors cette Breita dit Lote Vachel Gedi Bachalavimo Gimel Pamim. Il a été enseigné à 3 reprises dans la Torah ce pasouk de Tu ne feras pas cuire un agneau dans le lait de sa mère. Le pasouk le dit dans Shemot Kavdalet, dans Shemot Lamed Dalet et dans Dvarim Yud Dalet. Alors pourquoi cette répétition? La Breita répond Echad Issur Achila, l'un de ces psukim vient nous enseigner qu'on n'aura pas le droit de consommer cette viande qui aura cuit dans du lait, Vechad Issur Anaa, et le deuxième pasouk nous enseigne qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit, Vechad Issur Bishul. Et le troisième pasouk nous enseigne qu'on n'aura même pas le droit de cuire cette viande dans du lait. La Gemara continue. Matnitin de l'eau qui a itana. Notre Mishnah ne suit pas l'auteur de cette braïta, de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Basar bechalav asur beachila. De la viande qui aurait cuit dans du lait est interdite à la consommation. Umutar bana, cependant, on aura le droit d'en tirer profit. Chez Nehema, parce que le pasouk dit dans Dvarim Yudalet, Kiam Kadosh Ata Lashem Elokecha, parce que tu es un peuple saint pour Akadosh Baruchu, Lotevachel Gedi Bachalavimo, tu ne feras pas cuire un agneau dans le lait de sa mère. Oula Alan Omer, dans un autre pasouk dans Shemot Kavbet, il est dit Ve Anche Kodesh Tiyunli, vous serez des hommes saints. Le pasouk continue et dit De la chair animale qui aura été déchiquetée dans le champ, vous ne le consommerez pas, vous le jeterez aux chiens. De la même manière que là-bas dans le pasouk de Shemot Kavbet, il est enseigné que cette chair donc est interdite à la consommation, mais on a le droit d'en tirer profit. Afkan asur ba'achila ou mutarbana. Nous dirons aussi dans le pasouk dans Dvarim Yudalet, où est employé le même terme de Kadosh, que ce qui est enseigné dans le pasouk est interdit à la consommation, et par contre on a le droit d'en tirer profit. De là, l'auteur de cette braïta apprend donc qu'on a le droit de tirer profit de la viande qui aura cuit dans du lait, contrairement à l'auteur de notre Mishnah. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Vechulin shenishratu ba'azara » Celui qui emploie comme objet de Kiddushin un animal qui n'a pas été sanctifié et qu'on a sacrifié dans le Beit Hamikdash, les Kiddushin ne seront pas valables. Et cela parce qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. La Gemara demande « Mena anemile, d'où est-ce qu'on le sait ?» La Gemara répond « Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir » Amra Torah, Shchotli, Becheli, sacrifie l'animal qui me revient dans mon domaine, c'est-à-dire sacrifie le korban dans le Beit Hamikdash, comme le pasouk dit au début de Vaikra et à plusieurs reprises que le sacrifice des korbanot doit se faire dans le Beit Hamikdash, Veshelcha, Beshelcha, et sacrifie les animaux qui te reviennent dans ton domaine, c'est-à-dire sacrifie donc l'animal qui n'a pas été sanctifié en dehors du Beit Hamikdash. Comme le pasouk dit dans Dvarim Yudbet, Vezavarta mibkarcha umitzoncha, etc. Tu sacrifieras ou tu égorgeras du gros bétail ou du mini bétail, et cela, le pasouk continue dit, bisharecha, c'est-à-dire dans tes portes, dans tes villes. Nous ferons donc la parallèle entre les deux. Ma sheli beshelcha asur, de la même manière qu'il est interdit de sacrifier mes animaux dans ton domaine, c'est-à-dire donc le korban est interdit de sacrifier en dehors du Beit Hamikdash, et d'ailleurs si on le fait, on aura non seulement l'interdiction de consommer cet animal, mais on aura aussi l'interdiction d'en tirer profit. Et cela puisqu'il s'agit d'un animal qui a été désigné comme korban. et il n'a pas été sacrifié dans le Beit HaMikdash. Finalement donc, l'interdiction d'en tirer profit n'a pas été levée. Voir le Kilot Yaakov, Siman Memdalet. Av Shelcha Besheli Asur. On nous dira aussi la même chose, que ceux qui te les animaux qui te reviennent, qui ont été sacrifiés dans mon domaine, sont aussi interdits. Donc l'animal qui n'a pas été sanctifié et qui a été égorgé dans le Beit HaMikdash, on n'aura non seulement pas le droit de le consommer, mais même d'en tirer profit. La Gemara demande, Ima Sheli Beshelcha Nushkaret. Si c'est ainsi, si nous faisons la parallèle, nous devrons la faire entièrement. Et nous devrions dire, de la même manière que si tu sacrifies un animal qui me revient dans ton domaine, donc un corban en dehors du Beit HaMikdash, tu seras sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. Av Shelcha Beshelia Nushkaret. Donc de la même manière aussi, si tu sacrifies un animal qui te revient dans mon domaine, donc un animal qui n'a pas été sanctifié dans le Beit HaMikdash, tu devrais être aussi sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. Alagma répond, Amakra, voici que le pasouk dit dans Vaikra Yudzain, concernant celui qui sacrifie un korban en dehors du Beit HaMikdash. Le pasouk dit, Vel petacho el moed lo evio, et il ne l'a pas amené à la porte du Beit HaMikdash, la grive korban l'Hachem pour l'offrir en tant que korban à Kodesh Baruch Hu, venichrat, il sera sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. En nous pouvons déduire de là, al korban anushkaret. Pour celui qui sacrifie un korban en dehors du Beit HaMikdash, il y aura la peine du retranchement dans le monde futur. Al chulin shenishratu ba'azara en anushkaret. Cependant, dans le cas de celui qui sacrifie un animal qui n'a pas été sanctifié, et cela dans le Beit HaMikdash, il n'y aura pas la peine du retranchement dans le monde futur. La Gemara demande si c'est ainsi. On ne peut plus faire cette parallèle. Ikal et Mefrach, on pourrait donc réfuter. Ma lesheli beshelcha. Comment peux-tu déduire la loi concernant celui qui sacrifie un animal qui n'a pas été sanctifié dans le Beit HaMikdash de celui qui sacrifie un korban en dehors du Beit HaMikdash, alors que concernant celui qui sacrifie un korban en dehors du Beit HaMikdash, chez Kenanush Karet, celui-ci est sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, alors que celui qui sacrifie un animal qui n'est pas sanctifié dans le Beit HaMikdash, celui-ci n'est pas sanctionné par la même peine. Alors finalement aussi, on ne peut pas le comparer concernant l'interdiction de la consommation et d'en tirer profit. Et là, Amar Abaye, c'est pour cela qu'Abaye le dit qu'on l'apprend d'ailleurs. Me'acha, c'est d'ici que nous l'apprenons, des différents psukim concernant l'offrande du Korban Shlamim dans Vaikra Gimel. Le pasuk dit à trois reprises concernant les différentes sortes d'animaux employés pour cette offrande. En premier lieu, le pasuk dit Ushrato, et il le sacrifiera. Puis le pasuk dit concernant une autre sorte d'animal, Veshachatoto, et il le sacrifiera. Puis à une troisième reprise, Veshachatoto, et il le sacrifiera. Tlata, Krae et Tere, nous avons donc trois psukim en trop, et qui nous laissent entendre une exclusion. C'est-à-dire, c'est seulement celui-ci qui sera sacrifié, et non pas un autre. Matan Moudlomar, qu'est-ce que le pasuk vient nous enseigner? Alors, l'Akma répond, le fiche Nema. C'est là parce que le pasuk nous enseigne par ailleurs dans Dvarim Yudbet, qui rak mimcha hamakom, si tu habiteras loin du Beit HaMikdash, Vezavarta, et tu sacrifieras ou tu égorgeras des animaux pour ton usage personnel. Berichuk makom atazoveach, tu auras le droit de sacrifier un animal qui n'est pas sanctifié loin du Beit HaMikdash, via atazoveach makom karov, mais tu n'auras pas le droit de sacrifier ce même animal dans un endroit proche, c'est-à-dire dans le Beit HaMikdash. Prat le chulin shelo yishachatu ba'azara, ce pasouk donc vient nous enseigner qu'on n'aura pas le droit de sacrifier un animal qui n'a pas été sanctifié dans le Beit HaMikdash. Ve'en yela tmimim, on ne peut apprendre de ce pasouk que l'interdiction de sacrifier un animal qui n'a pas été sanctifié pour korban quand il s'agit d'un animal qui n'est pas atteint d'une infirmité, harouyim likarev, qui sont aptes à être offerts en tant que korban. Minayin le rabot balei mumim, d'où sait-on que cette même interdiction existe quand il s'agit d'un animal atteint d'une infirmité qui ne peut pas être sacrifié en tant que korban. Là-dessus, l'Agma répond, Marbe Aniet Bale Moumin, on inclura dans cette interdiction les animaux atteints d'une infirmité, Sheken Min, il faut lire ici, Hakasher. Finalement, il s'agit d'une sorte d'animal qui est apte à être offert en tant que korban, même si celui-ci ne peut pas être offert en tant que korban. Celui-ci sera donc quand même inclus dans cette interdiction. Mais Minayin le Rabot et Achaya, d'où sait-on qu'on inclura dans cette interdiction aussi un animal sauvage comme un cerf ou une gazelle qui ne peuvent pas être offerts en tant que korban? La Gemara répond, Marbe ani et achaya shehi bishrita ki behema. On pourrait encore à la rigueur inclure dans cette interdiction l'animal sauvage pour lequel l'égorgement est obligatoire comme les animaux domestiques. Minaïn les rabot et taofot. Mais d'où sait-on qu'on peut inclure aussi les oiseaux dans cette interdiction alors que la shrita n'est pas écrite clairement dans la Torah concernant les oiseaux? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk nous enseigne Ushchato veshachatoto veshachatoto. Donc ce sont les psukim que nous avons rapportés plus haut, et il l'égorgera, et il l'égorgera, et il l'égorgera. Nous interprétons ici deux des trois psukim qui sont en trop pour déduire et inclure dans cette interdiction l'animal sauvage et les oiseaux. Le troisième pasouk sera interprété par la suite. La Gemara demande Yachol lo ishrot. On aurait pu croire et apprendre de ce pasouk qu'on aurait simplement l'interdiction de sacrifier des animaux qui n'ont pas été sanctifiés dans le Beit HaMikdash. Vim shachat yemutar. Cependant, s'il l'a fait, ces animaux seraient permis à la consommation. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk nous enseigne Ki rak mimcha hamakom vezavarta veachalta. Et si tu seras loin de l'endroit, donc du Beit HaMikdash, tu sacrifieras ou tu égorgeras des animaux pour ton usage personnel et tu pourras les consommer. Ce que tu égorges loin du Beit HaMikdash, tu pourras le consommer. Mais tu n'auras pas le droit de consommer ce qui a été sacrifié ou égorgé dans un endroit proche, c'est-à-dire dans le Beit HaMikdash. Brat le chulin shenishchatu ba'azara. Cela viendra donc exclure les animaux qui n'ont pas été sanctifiés et dont on a fait la shrita dans le Beit HaMikdash. On ne peut apprendre de ce pasouk que l'interdiction de consommer un animal qui n'est pas atteint d'une infirmité et dont on a fait la shrita dans le Beit HaMikdash. Nous passons à Daf Nun Chet Amud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.